ici à Paris. 2 heures de moins en temps universel. C'est la fin de ce journal En français facile. Merci de nous avoir suivis. Restez bien à l'écoute. Tout de suite, on parle ballon rond avec Radio Foot International.
Radio G. 101.5 FM.
18h10, 19h, c'est Topette, la quotidienne de Radio G. Présentée par Pierre Benoît.
Bonjour, bonsoir et bienvenue à l'écoute de cette nouvelle émission de Topette sur le 101.5 FM de Radio G. Hier, nous étions avec la team Javras, on a parlé de la mémoire arrangée. Demain, nous serons avec Miss Curvy, Pays de la Loire 2024 et on va parler également du Bocal. Ce collectif de créateurs de jeux de plateau, Nicolas Bonneau, sera avec nous de retour. La dernière fois, il était là pour la compagnie des passeurs de l'impalpable. Demain, il sera là donc pour le Bocal et jeudi, nous sommes avec le Quai. Et ce soir, donc, vous allez me poser la question. Ce soir, on va parler du concours Ma Vitrine pour la Culture 2024, une chasse aux affiches dans vos commerces angevins. C'est du 22 octobre, donc ça commence aujourd'hui, ça a commencé aujourd'hui même, et ça va jusqu'au 5 novembre, et au programme, on peut gagner des places pour Julien Doré et Malik Bentala, les dates qui seront sur Angers, donc ça vaut le coup, et pour en parler, Yann et Charlotte, pour la partie Igloo, seront avec nous, et on aura également Cathy Dreux, qui est coordinatrice des actions pour les vitrines d'Angers. Ensuite, en deuxième partie d'émission, je vais donner le micro à Nolwenn puisque nous allons parler ufologie, Nolwenn.
Oui, on va parler des ovnis.
Voilà, tout simplement, elle nous a fait la définition. Il s'agira d'une conférence du côté de Montsoreau, ce sera en deuxième partie d'émission. Et au cours de cette émission, nous aurons bien évidemment l'édito en pro de Charles. Bonsoir Charles, il prend le micro forcément. Ah,
salut Pierre Benoît, salut tout le monde, comment ça va?
En plein mondial en ce moment.
Oui, c'est le mondial d'improvisation à Bruxelles et on va en parler dans l'édito impro, en fin d'émission.
En fin d'émission, à 18h43 précisément, Topette, c'est parti pour ce soir.
18h10, 19h, Topette, avec Pierre Benoît.
Et avant tout ça, bien sûr, un point sur l'actu, et ce soir, c'est avec toi, Emilien. Bonsoir Emilien.
Bonsoir Pierre Benoît.
On commence avec un important procès de trafic de drogue qui vient de s'ouvrir au tribunal d'Angers.
En effet, depuis hier, lundi 21 octobre, le tribunal d'Angers est le théâtre d'un important procès de trafic de drogue. En tout, on dénombre 11 prévenus, mais seulement 8 ont répondu présents à leur convocation. L'affaire remonte au 2 septembre 2022, où le principal prévenu à la tête du réseau, surnommé Cacahuète, avait été appréhendé par les forces de l'ordre en possession de plus d'une cinquantaine de kilos de résine de cannabis et de cocaïne, suivi d'une saisie chez les parents du prévenu d'un important butin s'élevant à plus d'1,5 million d'euros. Plus encore, des accusations de blanchiment d'argent et de trafic d'armes pèsent sur les épaules des accusés. Pour l'heure, la plupart ont nié les faits. Tout dépendra alors de l'enquête de personnalité des prévenus, des réquisitions et enfin des plaidoiries pour déterminer le sort des accusés.
Le caché mais très connu bar Le Gatsby a fait ses adieux, Emilien.
En effet, Pierre Benoît, c'est avec tristesse et émotion que ce vendredi 18 octobre, le fameux bar clandestin style années 20 Le Gatsby annonçait sa fermeture définitive. Malgré une pétition ayant recueilli plus de 3500 signatures, l'établissement a quand même été forcé de se placer en redressement judiciaire pour une histoire de papier venue tout chambouler. Fin de citation du gérant. Concernant l'accès des clients à une issue de secours, le bar devait drastiquement diminuer sa jauge, la faisant passer de 120 à 19 individus maximum. Pour les fans comme moi de ce style année folle et de ce mythique bar angevin, le Gatsby nous permet de garder une trace de son existence en ouvrant une vente aux enchères de tout son mobilier qui aura lieu le mardi 5 novembre à 10h au 24 rue d'Hélice.
Merci beaucoup Emilien. On se retrouve pour le synopsis très prochainement.
Totalement. On n'a pas encore l'idée du film qu'on va aller voir. Tout dépendra en fait de la proposition des 400 coups. Mais oui, ça va arriver vite.
Et on te retrouve très prochainement. Sinon, c'est déjà en podcast dans l'onglet Podcast Plus du site internet de Radio G. L'hiver n'est pas encore arrivé, mais on va déjà parler de l'igloo ce soir dans Topette.
L'invité de Topette sur Radio G.
Bonsoir Charlotte. Charlotte.
Bonsoir.
Et bonsoir Yann.
Bonsoir.
Et bonsoir Cathy également.
Bonsoir.
Je vous ai présenté tout à l'heure donc Yann qui est à l'Igloo avec Charlotte et Cathy qui est salariée, coordinatrice des actions des vitrines d'Angers. Et ensemble ce soir nous parlons donc de ce concours qui a commencé aujourd'hui même, Ma Vitrine pour la Culture, édition 2024. Une grande chasse aux affiches géantes qui se passe à la fois devant les vitrines mais aussi sur les réseaux sociaux puisque le but du jeu c'est de prendre en photo, d'identifier l'Igloo ou prod l'Igloo affichage et puis peut-être même les vitrines, on va en parler dans quelques instants. Et puis on peut éventuellement gagner, si on est tiré au sort, des places pour Julien Doré et Malik Bentala. Mais on va déjà reprendre les choses dans le bon ordre. Charlotte, Yann, je me tourne vers vous pour nous rappeler ce qu'est l'Igloo exactement. Et bien évidemment, on n'attend pas la définition Wikipédia de cet habitat pour les Inuits au Groenland. Yann, est-ce que tu veux te lancer peut-être ?
Alors l'Igloo, c'est 20 ans, plus de 20 ans maintenant, d'abord une association, puis maintenant une SAS. On est spécialisé dans tout ce qui est promotion culturelle et booking d'artistes, tournée d'artistes. En ce qui nous concerne, là, surtout sur la promo culturelle, en fait, depuis 20 ans, on affiche dans les commerces et on distribue des documents pour toutes les structures culturelles, type Shabada, Musée d'Angers, pour des événements comme les Accroche-Cœurs. Et puis, depuis 2021, suite au Covid, on a lancé le projet Ma Vitrine pour la Culture, qui a été dans l'idée de mettre en avant les structures culturelles avec qui on travaille durant l'année et aussi les commerçants qui sont le relais de l'actualité culturelle sur Angers.
Et bien sûr, on va en parler dans quelques instants. Charlotte, l'Igloo, c'est un acteur majeur, important du paysage culturel angevin. D'ailleurs, l'Igloo veut défendre une culture ouverte à tous et toutes, pluriel et inclusive. C'est-à-dire comment on essaie de répondre à ces missions qu'on se donne à l'Igloo, Charlotte ou Yann?
Déjà, on défend des artistes émergents et locaux. On produit aussi des spectacles et des concerts. Ensuite, on est ouvert vraiment à la culture, voilà, pour toutes et tous.
Et comment, Yann, parce qu'auprès du grand public, on distingue pas forcément l'Igloo. On reconnaît le logo, mais des fois, c'est vrai qu'on a du mal à imaginer tout ce qu'il y a derrière, parce qu'il y a quand même beaucoup d'équipes. En plus, c'est sur Angers et sur Nantes. Si on fait un petit peu l'organigramme de la structure, comment c'est organisé?
Alors, effectivement, on est présent sur l'ensemble de la région Pays de la Loire, notamment avec, on peut nous reconnaître avec nos petits médiaclips, les porte-affiches qui sont identifiés Igloo avec le petit logo et qui sont bleus. Et dans lequel on peut retrouver justement toutes les affiches des structures culturelles de la région Pays de la Loire.
Et ça, c'est pour la partie Igloo. On pourra en reparler tout à l'heure, redonner les infos pratiques et surtout parler de ce concours. Je le garde au chaud pour l'instant, oui. Au chaud à l'intérieur de l'Igloo. On va s'intéresser aussi aux vitrines d'Angers qu'on connaît bien, Cathy. Toi, oui. Tu es coordinatrice là-bas, donc tu es salariée. Et puis, je crois qu'il y a aussi quelqu'un qui t'accompagne.
Tout à fait. Je suis donc coordinatrice des diverses actions de l'asso et je travaille avec une alternante en communication et événementielle, Solène. Et donc les vitrines d'Angers, bah nous c'est une association de commerçants du centre-ville et nous avons en fait nos 30 ans l'année prochaine.
Ah ben presque bon anniversaire, voilà. Je prends un petit peu d'avance pour les 29 en tout cas. C'est pareil, merci. Les vitrines d'Angers, c'est quelque chose qui visuellement parle beaucoup aux Angevines et aux Angevins et pourtant des fois on ignore le projet, qu'est-ce qui est mené derrière. Alors pour les présenter, Cathy.
Eh bien notre cœur d'action c'est de dynamiser le centre-ville par des actions diverses, des animations et puis des partenariats comme on fait donc aujourd'hui avec l'Igloo. On est co-organisateur, avec la mairie de la braderie. Donc, on anime, le centre-ville avec de la musique pour les soldes, pour toute la braderie, toute la journée de la braderie. Et puis, on a donc un peu moins de 200 adhérents, en centre-ville et on vend et crée des chèques cadeaux. Donc, c'est notre gros attrait et, les personnes qui viennent acheter des chèques cadeaux les dépensent donc en centre-ville auprès des boutiques adhérentes et qui les acceptent.
Et pour comprendre, du coup, les boutiques adhérentes aux vitrines d'Angers, on a un petit peu de tout. Ça peut aller de la boulangerie locale
De tous les services que vous pouvez avoir besoin, de l'esthétique, pour manger, pour se coiffer. Donc, vraiment de tout.
Et le prochain temps fort là qui va arriver, la braderie, je crois qu'elle est passée.
Oui,
oui, c'est ça. Hein.
Voilà. Alors bah le temps fort, bah c'est Noël hein, pour nous. Hein, forcément, on crée donc une animation sur les réseaux. Chaque jour, on représente un adhérent avec un cadeau à gagner. Donc il faut nous suivre. Voilà, sur les réseaux. On a ouvert TikTok dernièrement. Et puis bah donc forcément les chèques cadeaux, c'est le moment. Si vous n'avez pas d'idée de venir chercher des chèques cadeaux.
On pourra en reparler tout à l'heure aussi en fin d'émission, Cathy. Quand tu as dit TikTok, j'ai vu Emilien hocher de la tête. Emilien, je ne sais pas si tu es en juin, toi, ou pas?
Non, alors pas du tout. Je ne suis pas en juin. Moi, je suis de Vendée. Voilà.
Bon, bah, mauvaise pioche. Je me tourne plutôt vers Charles alors pour demander si l'igloo, les vitrines d'Angers, c'est des noms, des marques qui te parlent déjà?
Ah, bah, bien sûr. Parce que déjà, l'igloo, évidemment, puisque étant dans le monde du spectacle, c'est quelque chose qu'on connaît. Les vitrines d'Angers, oui, aussi. C'est quelque chose qui paraît important aussi de les commerces, ça fait quand même partie de la vie d'une ville, et pour moi en tant que néo-français, je trouve ça hyper intéressant que les commerces soient en ville et pas nécessairement garés dans les centres commerciaux, pour pas en nommer, mais je trouve ça vraiment intéressant que ça fait partie de la vie de la ville pour moi.
Et finalement, les boutiques et même l'affichage présent sur les boutiques constituent l'identité même de la structure urbaine, donc de Angers par extension. Yann, Charlotte, Cathy, vous restez avec nous. Bien évidemment, on va parler de ce concours puisque vous êtes là pour ça ce soir. Mais avant tout ça, on écoute Dans le Maintenant de Baltic et on revient juste après tous ensemble sur le 101.5 FM. Dans dans le maintenant de Baltique sur le 101.5 FM de Radio G, à l'écoute de Topette, bien évidemment. Et ce soir, nous parlons, alors tout à l'heure, on va partir dans les confins de la galaxie avec Nolwenn. On va prendre une soucoupe volante et on va s'envoler. On va aussi avoir l'édito impro de Charles, les indépendantes en juin également avec Marie. Mais avant tout ça, donc, nos invités présents avec nous ce soir en studio, l'Igloo et les vitrines d'Angers, enfin, il y a des personnes derrière, bien évidemment. On est avec Yann Charlotte pour la partie Igloo et avec Cathy pour la partie des vitrines d'Angers. On évoque bien évidemment ce concours, Ma vitrine pour la culture, édition 2024. Yann, je crois même que c'est la troisième édition, si je ne m'abuse, ou peut-être la deuxième.
Alors, c'est
la deuxième du jeu.
Voilà.
La deuxième du jeu.
Ça fait la troisième si on compte la première affiche réalisée en 2021, mais effectivement, la deuxième du jeu.
Bon, c'est un petit peu flou pour nos auditeurs auditrices hein, qui découvriraient ou qui prendraient même l'émission en cours de route ce que cette chasse aux affiches. Alors, on pense comprendre le principe, il faut trouver des affiches. C'est quoi le concept, Charlotte, de cette chasse aux affiches, justement?
Donc, on a disposé à Angers 300 affiches sur les vitrines des commerces. Donc, à partir d'aujourd'hui, donc le 22 octobre et jusqu'au 5 novembre, à gagner, il y aura 2 places pour Malik Bentala le 25 février 2025 à l'Amphithéa, 2 places pour Julien Doré le 26 avril 2025 à l'Arena Loire. Et donc, les règles du jeu sont les mêmes que l'année dernière. C'est assez simple, il faut donc trouver une affiche, la prendre en photo avec l'enseigne du magasin. Les affiches sont assez faciles à trouver parce qu'elles sont très colorées, orange, bleu.
Elles font 2 mètres sur 3. Non, c'est des affiches classiques.
C'est des A2. il faut, en deuxième étape, suivre le compte Instagram Ligloo Affichage Culturel. Et puis ensuite, en troisième étape, poster la photo en story Instagram en taguant Ligloo Affichage Culturel. Vous avez la possibilité de jouer une fois par jour. Concernant notre autre partenaire, c'est Cheyenne Productions. Donc c'est eux qui nous offrent aujourd'hui, qui vous offrent aujourd'hui du coup ces places pour Julien Doré et Malik Bentala. C'est un organisateur de spectacles et de concerts dans toute la France. Ils ont fait notamment passer à Angers en 2024 Alban Ivanov, Fabrice Eboué et Matt Pokora par exemple. Et du coup, pour ce jeu, on est aussi en collaboration avec Vitrine d'Angers, l'association des commerces du centre-ville.
Eh ben merci Charlotte, tu as tout dit. Alors pour résumer dans les grandes lignes, il faut prendre en photo les affiches bien précisément où c'est marqué Ma vitrine pour la culture. On peut donner les couleurs ou pas? On peut donner des indices un petit peu ou non? Ça doit rester secret.
C'est assez facile à trouver en principe. Hein.
C'est orange et turquoise.
Orange et bleu, oui.
Orange et bleu, voilà.
Un
donc
peu de rose.
Il faut prendre en photo, identifier, suivre les comptes. C'est quelque chose d'assez classique finalement,
oui.
comme pour beaucoup de concours. Juste pour faire une petite parenthèse quand même sur l'historique, Yann, parce que c'est vraiment né pendant cette période Covid, cette idée de dire on va soutenir les commerçants qui ont peut-être les boutiques fermées justement.
On va soutenir les commerçants et les acteurs culturels qui représentent par exemple le Shabada, les musées. L'idée, c'était effectivement de les mettre en lumière parce que c'était une période compliquée pour eux, les commerçants et les structures culturelles. Et puis si on sur cette édition, on est allé voir aussi les vitrines d'Angers, c'est que on a beaucoup de partenaires commerçants et pour avoir, on va dire, un référent, ça nous paraissait important de travailler avec les vitrines d'Angers sur cet événement. Qui est fédérateur des commerçants sur Angers.
Est-ce que c'est vrai, Cathy, ce que dit Yann à l'instant, très près des micros?
On a été ravis, on est ravis en tout cas de partager ce partenariat. C'est donc la deuxième année, pareil, au niveau du jeu, mais c'est la troisième année qu'on collabore ensemble et voilà, de soutenir le commerce angevin et puis la culture pour nous, ça paraissait tout à fait normal,
ouais, vous
dans
avez
la lignée de notre activité.
Vous avez pu le constater, les différents commerçants qui avaient les smartphones qui étaient sortis devant les boutiques et
alors,
que ça flashait un peu?
Pas encore tout à fait aujourd'hui, mais un petit peu quand même dans les rues d'Angers aujourd'hui. Mais je pense qu'à partir de demain, oui, ça va être des gros flashs partout.
Et puis du coup, c'est vrai que ça peut peut-être permettre d'inciter les gens à... C'est
à
aussi
venir
ça,
dans
derrière,
le
peut-être, de venir dans
tout
le centre-ville
fait.
Et tout, tout se fait. Déplacer à pied. Et puis,
de connaître les boutiques, de connaître aussi les adhérents Vitrine d'Angers, de consommer en centre-ville. Et de pouvoir aussi jouer avec un jeu attractif sur les réseaux et en même temps vivant, puisqu'il faut aller se rendre en centre-ville.
Donc contrairement à ce qu'on pourrait penser, de placarder des affiches ouais. sur une vitrine, ça n'empêche pas de... Ça masque pas le commerce, au contraire, ça le met en valeur
tout
finalement.
Ouais, exactement. Avec les bandeaux Liglou, voilà, nous on a donc un peu moins de 200 adhérents aux vitrines d'Angers et on a une vingtaine d'adhérents qui sont joints en fait à cette opération. Donc voilà, plutôt contente de ce partenariat également cette année.
Est-ce que Cathy, t'as déjà toi commencé à flasher ou pas cet après-midi les boutiques?
Déjà, nous on est dans le jeu, donc j'ai flashé ma vitrine, oui.
Bon ben voilà,
Charlotte. On est situé 67 rue Plantagenêt.
Oui, précisément, tu fais bien de le rappeler, ouais. 67 rue Plantagenêt à Angers, bien évidemment. Charlotte et Yann, vous aussi, vous avez le droit de flasher, de participer ou pas?
Alors, nous, on va pas participer en tant que Liglou, mais en tout cas, les commerçants, commerçantes peuvent aussi participer au jeu, il n'y a pas de problème. Et oui, il y a déjà eu quelques participations aujourd'hui.
Dans les mêmes conditions fixées par l'article alinéa que tu disais tout à l'heure, hein, prendre la photo, identifier les comptes, on peut le rappeler, Igloo affichage.
L'Igloo affichage culturel.
Voilà, tout simplement. Et puis ensuite, de suivre aussi le compte, c'est important. On va redonner toutes les infos pratiques tout à l'heure en fin d'émission. S'il y a des infos qu'on a oublié de préciser, n'hésitez pas à les noter dans un coin de votre tête ou sur le papier. On va passer à l'édito impro dans quelques instants également. Mais d'abord, on fait un petit détour pour découvrir le profil d'une indépendante en juin. Et c'est proposé par Marie.
Les indépendantes en juin. La chronique des femmes qui ont sauté le pas de l'entrepreneuriat. Aujourd'hui, j'ai envie de vous parler de celles qui jonglent entre famille, passion et carrière, les mumpreneurs. Vous savez, ces femmes qui créent leur entreprise tout en gérant leur vie de famille. Prenons l'exemple d'Aline, 40 ans, maman solo et mumpreneur accomplie. Aline, au départ, c'était un peu l'étudiante paumée qui n'avait aucune idée de ce qu'elle voulait faire plus tard. Ne se retrouvant pas dans un cursus dit classique, elle fait un BEP en construction et topographie, puis un autre. En dessinateur d'exécution en communication graphique. Plein de mots pour dire que finalement, à la sortie de ces formations, le chemin vers une carrière épanouissante n'était toujours pas clair. C'est pas grave, elle décide de rentrer dans la vie active et elle trouve un emploi de caissière chez Carrefour, un poste qu'elle occupe pendant 4 ans. Mais Aline a envie de plus. Elle démissionne et change de domaine. Elle fait ses preuves en tant que vendeuse chez Promode, puis elle grimpe les échelons pour devenir directrice adjointe chez Celio. Mais à 29 ans, avec 2 enfants à charge, elle prend un moment pour réfléchir et se recentrer sur ce qui compte vraiment pour elle, la famille. Après un an passé avec les siens, elle décide à ses 30 ans de faire un bilan de compétences. En croisant le chemin d'un designer qui fait du covering de voitures, petite parenthèse, la création et pose de revêtements, ouais c'est ça le covering. Elle voit une opportunité. Un métier qu'elle connaît bien puisqu'elle a déjà étudié ce domaine. Elle rejoint cette entreprise et y reste pendant 3 ans, tout en gérant sa nouvelle vie de maman solo après sa séparation. En 2020, le Covid a fait encore des siennes, mais cette fois-ci de façon positive. Pendant le premier confinement, Aline réalise qu'elle veut passer plus de temps avec ses filles. Loin des contraintes du salariat, elle demande une rupture conventionnelle et décide de vivre pleinement son rôle de maman. En 2021, un ancien prestataire, encore une fois, lui propose de revenir dans le monde salarié, mais Aline, forte de son expérience, refuse. Cette fois, elle est prête à se lancer dans l'entrepreneuriat. Elle s'inscrit comme auto-entrepreneur et son entreprise de covering voit le jour, avec un nom qui lui correspond parfaitement, atypique, tout comme son parcours. Cela fait 3 ans maintenant qu'Aline crée des supports de communication pour les entreprises, des flyers, des stickers, des affiches, et même des projets de décoration personnalisée pour les particuliers. L'entrepreneuriat est une révélation pour elle. Elle peut désormais travailler selon le planning de ses filles et profiter de moments de qualité en famille. Aujourd'hui, elle a trouvé un équilibre entre sa vie pro et sa vie perso. Elle n'a plus à sacrifier l'un pour l'autre. Son petit conseil pour celles qui hésitent ? Osez, même si vous avez peur. Quand vous avez une idée, suivez-la jusqu'au bout. Se faire plaisir, c'est essentiel. Vous pouvez contacter et retrouver l'univers d'Aline et ses services sur LinkedIn à Aline Legarce. G-A-R-S et sur son compte Instagram atypique.covering. Je vous dis à très vite pour une nouvelle histoire inspirante d'entrepreneuriat au féminin.
Et on retrouve donc Marie dans deux semaines pour un nouveau profil, une nouvelle personne, une nouvelle femme qui entreprend ici en Anjou. On va aussi avoir l'édito impro. J'ai oublié de parler de la dernière capsule des semaines d'information sur la santé mentale qui se sont conclues la semaine dernière, mais il nous en reste une à diffuser. Et surtout, maintenant, on va partir du côté de Mars avec toi, Nolwenn.
On est avec Frédéric Brochard, bonsoir.
Bonsoir, bonjour.
Vous êtes président de l'association OVNI Anjou et ce soir on va parler avec vous de la troisième rencontre ufologique de Montsoreau. Ça aura lieu le 26 et 27 octobre, donc le week-end qui arrive. Donc avant de rappeler le contenu de cette rencontre, est-ce que vous pouvez un petit peu nous rappeler ce qu'est l'ufologie ?
L'ufologie c'est la recherche... concernant tout ce qui est phénomène OVNI, hein, ufologie, c'est l'acronyme anglais qui veut dire Unidentified Flying Object, hein, l'équivalent d'OVNI, objet volant non identifié en français. Donc ça consiste en fait à rechercher des témoignages et autour des faits pour l'étude, l'analyse et l'interprétation des choses qui se passent dans nos cieux et plus prosaïquement aussi au niveau du sol dans nos régions.
Et ça fait longtemps que ça existe, c'est né où cette discipline ?
En fait, elle est née suite à l'observation de Kenneth Arnold en 1947 aux États-Unis, qui était un pilote chevronné qui recherchait un autre avion qui était un avion qui était en perdition et qui observait donc en fait des objets en forme de trident, hein, qui se déplaçaient en effectuant des mouvements rappelant ceux de deux soucoupes qu'on aurait pu faire glisser sur une table, donc d'où vient l'expression soucoupe volante.
Et pour les personnes qui font pas très bien la différence, déjà, est-ce qu'il y en a une entre les ovnis et ce qu'on appelle les extraterrestres ?
Là, on est dans l'interprétatif. Hein. Il va de soi qu'on est confronté sur le terrain à des faits qui nous échappent complètement. Mais rien ne fait de lien entre l'existence des extraterrestres, entre guillemets, et les phénomènes ovnis, même si les différentes études menées laissent à penser qu'il s'agit d'autre chose, hein, qui soit d'origine exogène ou exotique, voilà.
Et est-ce qu'en France, l'ufologie, c'est une discipline assez courante ou ça reste encore moins courant qu'aux États-Unis ?
Ça reste moins courant qu'aux États-Unis. Bon, ça vient aussi des mentalités et puis des recherches menées en France. Mais il va de soi qu'effectivement, en France, il y a quand même en France des chercheurs chevronnés. Mais bon, il y a peu d'enquêteurs de terrain. Les nouvelles générations n'ont pas vraiment de se soucier de ces problématiques. Et c'est bien dommage.
Et pour donc revenir un petit peu à la rencontre ufologique qui aura lieu ce week-end, de quoi vous allez parler ? Quel va être le sujet ?
Alors le thème retenu cette année, c'est les 70 ans de la vague de 1954. Je ne sais pas si vous en avez entendu parler, mais qui est passé à la trappe au niveau médiatique et où en France, il y a eu par exemple des centaines de cas d'observation de phénomènes OVNI observés au sol, qui vient au sol, avec des entités qui ont été... observé et rapporté par les différents témoignages à travers toute la France et un petit peu aussi en Europe.
Et qui va intervenir ? Qui va pouvoir parler de ces sujets lors de cette rencontre ?
Donc il y a différents intervenants, notamment Jonathan Ginet et Annie Joigneau, qui sont des spécialistes de la vague de 1954. Lui a donc écrit trois ouvrages là-dessus, en se basant sur les faits qui ont été rapportés par la presse durant cette période.
Et donc cette conférence, elle aura lieu à Montsoreau. C'est très symbolique. Est-ce que vous pouvez nous expliquer pourquoi ?
Alors Montsoreau, il y a trois raisons à ça. C'est qu'en fait, la manifestation est organisée par Tufo et puis OVNI Anjou. Donc en fait, on est entre la Touraine et l'Anjou. Donc c'est un site aussi géographique intéressant. La deuxième raison, c'est parce qu'il y a eu beaucoup de cas d'observation qui ont été rapportés, notamment que nous avons enquêté dans le secteur géographique de Montsoreau, que ce soit à Fontevraud, que ce soit à Saumur ou bien à Chinon. Et la troisième raison, c'est qu'en fait, ce qui se passe, c'est que, donc en fait, dans le prix Moncon du troisième type, est nommée la conférence de Montsoreau. Alors c'est un petit peu particulier, c'est-à-dire qu'en fait, donc ce qui s'est passé, c'est qu'en fait, à l'époque, Steven Spielberg, donc en fait, a contacté, Jacques Vallée, qui est un spécialiste français des phénomènes d'OVNI, et qui donc lui a fait part d'une observation qui a eu lieu en 1966 à Montsoreau.
Ok, d'accord, très bien. Donc c'est vraiment, il y a toute une symbolique, tout un historique derrière cette ville, et elle est très, très connue pour ces phénomènes OVNI, si je comprends bien.
Pas très connue, moi, parce que bon, il y a le temps qui est passé un petit peu dessus, mais c'est en 1966 par les époux Lacoste, lorsqu'ils étaient train de sortir, vérifier l'avancée des travaux de leur maison. C'est vrai qu'elle est peu connue. Mais par contre, c'est des relatifs à travers la presse. Hein. Je pense que tout le monde va, si tout le monde tape 1966, OVNI, Montsoreau, tout le monde trouvera l'information.
À l'époque, les gens avaient pris ça très au sérieux?
Ah bah tout à fait, il y a eu des enquêtes, il y a eu des chercheurs qui sont venus sur place, enquête de gendarmerie, il y avait aussi des traces au sol. Et même à l'heure actuelle, bon, il y a encore des gens qui prennent ça très au sérieux.
Et est-ce que avec cette conférence, il y a des gens qui vous prennent encore pas, qui prennent l'ufologie comme quelque chose de pas sérieux?
Bah la majorité des gens qui viennent à la manifestation sont des gens qui sont déjà sensibilisés par le phénomène, hein, soit parce qu'ils ont été témoins, ils en ont entendu parler, ou d'autres amis à eux ont été témoins, mais la grande majorité prennent ça très au sérieux, notamment quand ils ont été confrontés à des phénomènes extraordinaires.
Donc c'est quand même... est-ce que c'est moins ou plus courant qu'aux États-Unis?
Il y a toujours des cas, hein, on nous rapporte régulièrement des cas. Alors, il y a des cas plus ou moins récents, plus ou moins anciens, et il va de soi qu'aux États-Unis, c'est plus dans la mentalité. Hein, ils observent régulièrement des phénomènes ovnis. Et même récemment, d'ailleurs, bon, bah, y a des articles qui viennent d'être publiés concernant l'observation d'appareils non identifiés au-dessus des bases militaires. Okay. C'est ça qui date. Voilà. Donc, c'est quand même tout qui est pris très au sérieux, notamment au niveau militaire.
Et est-ce que vous remarquez que c'est un phénomène qui devient de plus en plus populaire?
Bah, populaire, oui et non. Mais disons que, bon, bah, ça a toujours existé. Enfin, disons que ça fait des années que le phénomène se manifeste avec des formes différentes. Et comment dirais-je, des caractéristiques assez atypiques, mais bon, populaire plus ou moins. Après, c'était, bon, disons que c'est vrai qu'il y a aussi peut-être une évolution au niveau des films et autres, mais bon, on est quand même loin de la réalité du terrain.
Oui, vous avez pas remarqué un intérêt, par exemple, avec l'avènement des réseaux sociaux et tout ça, un intérêt plus fort pour le phénomène des ovnis ou des choses comme ça? Ouais.
Bon, disons qu'il y a rien de diffusion, mais il y a beaucoup de films, de séries, etc. Mais disons qu'on est là, dans la majorité des cas, on est plus, je dirais, dans la science-fiction. Hein, le côté factuel, les gens oublient complètement. Hein, le terrain, c'est sur le terrain qu'on apprend et qu'on découvre des choses. Alors, moi, quand je vais enquêter, par exemple, je sais pas, du côté de Béouar, donc on va sur le terrain, on côtoie le témoin. Le témoin qui a été victime, ou témoin du phénomène qu'il a intrigué.
Oui, on s'en tient aux faits, on ne déborde pas dans la science-fiction, on analyse les faits.
On analyse les faits, nous on travaille sur les faits, hein. Les faits, rien que les faits. Après, libre à chacun d'interpréter de quoi il s'agit. Mais c'est vrai que dans un certain nombre de cas, on a été confrontés à des choses qui nous échappent complètement, de par les caractéristiques de l'objet, des formes observées et de l'impact psychologique sur le témoin.
Ok, très bien, bah, merci. Dernière question, qu'est-ce qu'on peut vous souhaiter pour cette rencontre ce week-end?
Que les gens découvrent un petit peu cette vague de 1954, et que surtout, il y a aussi pas mal de gens qui viennent témoigner, de manière anonyme, bien évidemment, et vraiment de manière très discrète, à travers l'association, pour pouvoir continuer le débat et les recherches.
Ok, très bien, merci Frédéric Brochard. On le rappelle, vous êtes président de l'association OVNI Anjou, et donc on a parlé avec vous de la troisième rencontre ufologique de Montsoreau, qui va s'intéresser aux ovnis, ce week-end, le 26 et 27 octobre.
Topette, avec Pierre Benoît.
Eh bien, le rendez-vous est pris. Merci beaucoup, Nolwenn. On va redonner les infos pratiques dans quelques instants pour ma vitrine pour la culture et puis les places qui sont à gagner pour quel concert, comment ça marche, quelle boutique ou pas, avec l'Igloo et les vitrines d'Angers. Mais avant tout ça, on va faire un petit tour par l'édito impro. C'est promis depuis tout à l'heure. C'est Charles sur Topette.
Salut Pierre Benoît, salut les copains, salut les improvisants joints. Depuis dimanche se jouent les premières rencontres du Mondial d'impro professionnel à Bruxelles ou Bruxelles. On a eu un gros débat ici à l'émission. Et c'est parti en grand avec une première victoire des Bleus en prolongation, 8-7 contre le Luxembourg. Igor Potosny et Amel Zam repartent respectivement avec la troisième et la première étoile du match. Autant dire qu'on a le vent dans les voiles. Sachant que toutes les équipes vont avoir deux matchs en phase de qualification, ça commence donc très bien pour nos Bleus. Petit rappel, les équipes qui participent au Mondial sont le Luxembourg et la France, on l'a dit, mais aussi la Suisse, la Belgique, le Québec et le Maroc. Justement, parlant du Maroc qui jouait aussi dimanche, ils ont remporté leur match contre la Suisse. Sachant que le Québec a gagné hier soir contre la Suisse 8-6, l'équipe helvète n'aura donc pas la chance de participer aux demi. Mais à travers tout ça, là où on doit vraiment se réjouir, c'est la première participation du Maroc et du Luxembourg au Mondial. C'est une super belle vitrine pour la discipline dans leur pays. Voilà, c'est donné pour les updates. Mais tout ça, un gros événement compétitif comme ça, en impro, c'est un peu antinomique avec le discours habituel que peuvent avoir les coachs d'impro. Parce que on martèle constamment que l'important dans notre discipline, c'est pas de gagner, que l'on joue avec l'autre, que l'on construit avec l'autre, etc., etc., etc. On en a parlé souvent dans l'émission. Et là, en milieu professionnel, ceux qui sont supposés être les porte-étendards de la discipline, dans un grand festival international, ben eux, ils comparent les nations dans un tournoi. Il y a des équipes qui vont finir en bas du classement et d'autres au firmament. Tout ça pour être qualifié ou pas de champion du monde. D'ailleurs, pour nous parler de ça, justement, dans deux semaines, on aura un membre de l'équipe de France pour nous permettre de jeter un coup d'œil dans les coulisses de ces Improlympiades. On vous donne rendez-vous dans deux semaines. Nous revenons donc à cette contradiction. On peut donc se demander à quoi ça sert une coupe d'improvisation, du monde professionnel. Pourquoi on y donne un caractère sportif avec de l'enjeu et donc des déceptions? Alors que on fait du théâtre, on fait du spectacle. Et on en revient à cette éternelle question de l'intérêt de la compétition en improvisation. Malheureusement, j'ai pas assez de 9 minutes, 10 minutes, 15 minutes, je sais pas, je m'en souviens pas, Pierre-Benoît.
40-40.
Voilà, c'est ça. Mais quand même, malgré le peu de temps qu'on a, on va essayer de creuser quand même un peu. Pour commencer, j'aimerais poser une question à vous tous qui êtes autour de la table. Tu peux allumer le micro, Pierre-Benoît. J'ai une question. Selon vous, à quoi ça sert les Olympiques? Les Jeux Olympiques, les Paralympiques qui ont eu lieu à Paris l'été passé, pour vous, ça sert à quoi?
Est-ce qu'il y a des personnes qui viennent?
Moi je dirais l'unité des nations, justement, la rencontre entre les peuples.
Bah déjà, c'est beau ça.
C'est beau, hein.
Ça manquait de violon, vite de drapeaux qui flottent, c'est fantastique. Donc, Pierre-Benoît, t'as peut-être un avis là-dessus, toi?
Ah, tu me prends de court, les Jeux Olympiques, c'est la beauté du sport, du dépassement de soi, mais beaucoup d'individualisme, et aussi du collectif, aussi, avec les équipes.
Très bien, fantastique. Bah, regarde, je vais pousser la réflexion de dire, pourquoi est-ce que cette année à Paris, il y a eu du breakdance, alors que ça va être la seule représentation et que à Los Angeles en 28, ça sera pas représenté. Donc pourquoi est-ce qu'il y a eu du breakdance selon toi?
Tu me poses la question vraiment, j'en sais rien du tout. Charlotte et Cathy ont peut-être la réponse.
Ben oui, voilà.
Non, du tout.
Non, pas du tout. Ben en fait, ce qui est bien dans toute cette histoire-là, c'est que ça fait la promotion de certaines disciplines sportives. En 28, à Los Angeles, il va y avoir des sports que les Européens ne connaissent pas et dont moi, j'attends énormément, comme la belote iroquoise. Vous allez voir, si vous pensez que le hockey, c'est violent, mes amis, vous avez pas vu ça. OK? Bon, bref, tout ça pour dire que dans ce qu'on s'est dit, il n'y a pas... Il n'y a pas de question de meilleur, de gagnant. On n'a pas parlé de médaille d'or. Évidemment, il y aura toujours des personnes pour qui suivre le tableau des médailles par pays, c'est un gros must. On peut s'imaginer le ricain dans le fond du Missouri qui est en train de se bercer dans son rocking chair, en train de caresser son alligator, les yeux pleins d'étoiles à voir dans son pays, voir que son pays a remporté 130 médailles, 40 de plus que la méchante Chine communiste. Et enfin, sous ses yeux, la preuve de la supériorité de son pays sur l'ensemble du globe. Ça vous fait sourire, ok? Tant mieux, parce que le ridicule comme ça, cette moquerie-là, c'est comme ça qu'on devrait voir les victoires en improvisation. Et là, je suis pas du tout dans une démarche à la Montessori où tout le monde repart avec un trophée, avec une gommette dans son tableau de soleil. Non, je dis juste que se détacher de la gravité de l'échec nous permet d'apprécier encore plus cette phrase de Mandela « Je ne perds jamais, soit je gagne, soit j'apprends ». C'est beau, hein?
C'est magnifique.
Sachant que le gars a fait 27 ans de prison pour apprendre, je vous recommande l'impro, OK? La cantine est meilleure, puis tu vis pas à 4 dans un 4 mètres carrés. Bref, je m'égare un peu, mais on comprend le propos. Un mondial d'impro, c'est pas là pour classer les nations dans une sorte de darwinisme social du sketch. C'est une grande fête de l'impro. On a parlé tout à l'heure de l'union des nations avec le drapeau qui flotte, etc. Et ça nous permet de faire la promotion de la discipline. Les jeunes et les moins jeunes qui vont aller voir ce tournoi-là vont peut-être avoir un coup de foudre, avoir envie de rejoindre un club associatif près de chez eux et ça va augmenter le nombre de licenciés. Juste pour le breakdance, on a commencé, il y avait 6000 licenciés et là, on n'a pas encore les chiffres, mais on est sûr que ça va augmenter. Tout ça, c'est de la publicité pour le sport, pour la discipline. Et pour Coca-Cola aussi. Donc,
Pepsi, Brescola.
Voilà, c'est ça. Et ça, Brescola surtout. Et là, c'est la raison d'estampiller le, et pourquoi estampiller le caractère professionnel du tournoi? Ben, ça montre que, ben, qu'il y a des professionnels dans ce milieu-là. Et dans 49, l'Igloo, vous le saurez, il y a 3 compagnies professionnelles. Il y a plusieurs structures, mais il y a des compagnies professionnelles d'improvisation qui sont les Expressos et la Belle Chute à Angers et l'Oiseau Moqueur à Saumur. Ce sont des gens qui peuvent vous former, donner des stages à votre structure, bref, qui peuvent contribuer à faire upgrader votre jeu d'équipe. Parce qu'avant d'être un jeu avec des classements, des étoiles de match, des Coupes du Monde, l'impro, c'est un jeu culturel. La culture, ça se partage. Avoir un adversaire qui a du beau jeu, ça te permet de progresser. J'invite donc toutes les compagnies à contacter les professionnels du milieu pour voir leurs propositions de stage et de formation. Je conclue en souhaitant un beau reste de tournoi à l'équipe de France qui, tout à l'heure, dans une heure, va rencontrer l'équipe de Belgique. On joue à domicile, on sait que c'est toujours un peu difficile, on croise les doigts. On leur souhaite soit de gagner la Coupe du Monde, soit de ramener un apprentissage qu'ils pourront partager avec leurs collègues de France. Dans tous les cas, tout le monde est gagnant.
Waouh, super. Beaucoup de belles paroles ce soir dans Topette, Charles.
Des paroles de sagesse.
Déjà, merci de nous avoir appris qu'il y avait des alligators dans le Missouri. Je l'ignorais totalement. Il y a peut-être des actus rapidement sur l'impro en une minute.
Oui, rapidement, il y a l'Alima qui va être demain à 19h à la MPT Mon Plaisir pour clôture le festival Le Cinéma C'est Mon Plaisir. Mais surtout, un truc que moi j'attendais personnellement depuis très longtemps en tant qu'improvisateur en juin, il y a aux Folies, jeudi à 20h, les Folies Angevines vont présenter le Battle Royale, qui est un tournoi de 2 contre 2 entre différentes compagnies amateurs angevines. Et ça fait plaisir. Il va y avoir l'Alima, les Lions et bien sûr les Folies Angevines. Et c'est complet. Donc j'en parle, mais en fait, vous pouvez pas y aller. Donc désolé pour vous.
Souvent, ça se passe comme ça au niveau des Folies ou même avec le Comedy Club. Ça me fait penser à ça également. Dans 2 semaines, pour l'édito impro avec peut-être un intervenant, on va discuter de ça ensemble.
Ouais, soit Félix Philippard ou j'aimerais ça avoir la capitaine Cécile Giroux.
À voir. Affaire à suivre. Merci beaucoup, Charles. Il nous reste encore des petites minutes ensemble, de 3, 4, 5, prenons le temps qu'il faut, pour parler avec Charlotte et Yann de la partie Igloo Affichage. De ce concours, mais aussi il y a Cathy qui est avec nous pour les vitrines d'Angers. Qu'est-ce qui est important de retenir, Yann, sur l'âme de ce concours, si on reprend un tout petit peu l'historique de ma vitrine pour la culture, Yann ou Charlotte, hein, Charlotte,
sur l'historique
ou sur le jeu en général, je pense.
Le jeu en général, qu'est-ce qui est important de retenir? Il faut prendre en photo. L'idée, c'est de valoriser à la fois les concerts qui vont avoir lieu sur Angers.
Oui.
C'est aussi de mettre en avant les boutiques locales et puis la culture au sens large.
Oui. Alors du coup, ce qu'il faut retenir pour ce jeu, là jusqu'au 5 novembre, c'est du coup les gains. Déjà, c'est 2 places pour Malik Bentala et 2 places pour Julien Doré. Donc ces 2 spectacles seront à Angers. Et donc les règles du jeu, c'est en 1, prendre l'affiche en photo avec l'enseigne du magasin, 2, suivre le compte Instagram Igloo Affichage Culturel, et 3, poster la photo en story Instagram en taguant l'Igloo Affichage Culturel. Et vous avez la possibilité de jouer une fois par jour. Il y a 3 ans d'affiches dans Angers, donc ça fait beaucoup de chance de gagner. Ensuite, il y aura un tirage au sort. Je l'ai pas dit au début, il y aura un tirage au sort le 7 novembre. On dira sur la page Instagram, du coup on donnera les noms des gagnants.
Voilà, donc restez attentifs à vos messages, surtout si vous êtes en compte privé ou je ne sais pas quoi, faut bien regarder vos demandes de messages, peut-être que vous allez gagner.
Et si vous êtes en compte privé, c'est aussi intéressant de le savoir, c'est que on peut pas voir les stories quand vous nous taguez, donc n'hésitez pas à nous envoyer les captures d'écran des stories que vous faites directement dans nos messages privés Igloo Affichage Culturel, comme ça on pourra bien voir tous les participants.
Et si vous n'avez pas de compte Instagram, c'est le moment d'en créer un pour participer au concours. Yann, sinon les affiches, on peut les retrouver un peu partout, se tenir informé des concerts, des grandes dates, de la culture dans le secteur. Hein.
Les affiches, on les retrouve oui dans les commerces de proximité, dans le centre-ville, principalement d'Angers, un peu sur les quartiers, mais surtout dans le centre-ville. L'Igloo, oui, effectivement, c'est l'acteur privilégié qui relaie toute l'actualité culturelle sur Angers et sur la région plus généralement. Donc c'est un peu l'agenda dans la rue de tout ce qu'on peut faire de façon locale sur Angers, sur Nantes, sur La Roche aussi, Laval, etc.
Et la vitrine de Radio G participe, je le précise en même temps, pour parler du concours. Merci beaucoup Yann, merci beaucoup Charlotte. On se dit
merci à vous.
Très certainement à l'année prochaine pour, oui, le, pour reparler du concours édition 2025. Cathy, d'un mot sur les vitrines d'Angers qui est partenaire du,
oui,
coup. Hein, voilà,
d'être partenaire à cette nouvelle à ce jeu pardon voilà cette nouvelle année. Et donc n'hésitez pas à nous suivre pour dénicher où se trouvent les affiches.
Suivre, voilà, les vitrines d'Angers.
Suivre les vitrines d'Angers, tout à fait, sur les réseaux pour vous donner des petites astuces.
Et les vitrines d'Angers
et des indices
ont aussi une propre vitrine, 67 rue Plantagenêt.
Plantagenêt, voilà, tout à fait.
Bon, et sur les réseaux sociaux, vitrine d'Angers tout simplement.
Voilà, au pluriel, vitrine-angers.com.
Et je,
voilà,
crois les chèques cadeaux d'un mot qui vont arriver,
oui,
pour Noël.
Tout à fait. Vous n'avez pas d'idée, voilà, pour offrir à quelqu'un. Vous venez aux vitrines d'Angers, on crée donc les chèques cadeaux des 5, des 10, des 30, et c'est dépensé dans toutes les boutiques adhérentes vitrines d'Angers.
Voilà,
voilà,
et bah, le...
bonne idée pour soutenir le commerce angevin.
Le mot est passé. Merci,
merci
beaucoup, Catherine Dreux, coordinatrice,
Cathy,
des actions.
Ouais.
Cathy, pardon.
Ouais, non, mais y a pas de soucis.
En plus, c'est marqué Cathy, très honnêtement, sur l'affiche. Cathy Dreux, coordinatrice des actions des vitrines d'Angers. Yann pour l'affichage de l'Igloo et Charlotte qui est à la communication, toujours à l'Igloo. Et puis nous, on se retrouve demain. Voilà, c'est fini pour ce soir. À un moment donné,
merci,
il faut
beaucoup
se quitter. On se retrouve demain avec Miss Curvy Pays de la Loire 2024 et Nicolas Bonneau qui va nous parler du bocal et de ses créations de jeux de plateau. Le Tic-tac, il va venir avec un prototype, je sais plus lequel c'est. On se quitte ce soir avec le podcast des SISM, c'est le dernier de cette année. On se dit à demain, 18h10, prenez soin de vous. Topette!
Bonjour, nous sommes adhérents à l'association Oxygem, qui est située à la Cité des Associations à Angers. Celle-ci accueille et est gérée par des personnes adultes en souffrance psychique. Cela nous permet de rompre l'isolement et d'être acteurs de l'association. Dans ce cadre, nous effectuons des balades, mais aussi du sport adapté avec notre partenaire Solisport. Cela remet notre corps en mouvement à notre rythme.
Au sein d'Oxygem, nous avons exprimé que nous ressentons à travers différentes discussions sur les bienfaits des balades et du sport avec Solisport. Voici quelques exemples. Quand je fais du tennis de table, sans être dans un club sportif adapté, je suis comme tout le monde. Le sport, c'est super. Sur le plan physique, c'est difficile. Mais avec Solisport, cela m'a appris à bouger mon corps. Heureusement que j'ai la marche, ça me fait du bien.
La balade, ça me fait du bien. Le sport aussi. Le sport, c'est ce qui permet de faire des activités, de respirer. Et de connaître d'autres personnes dans le cadre, bah, tous ensemble autour de moi, quoi. Et la marche me fait du bien. Et se calmer. Mais comme je suis pas toujours calme.
Actuellement, on réalise un album CD à Oxygem pour exprimer nos émotions avec l'aide de deux intervenants professionnels en musique et chant qui sont Irina et Benjamin. Nous avons réalisé une chanson sur les bienfaits du sport avec une quinzaine d'adhérents. Le groupe a choisi sur quel titre il souhaitait chanter. Ensuite, il a exprimé des mots sur les bienfaits du sport et deux adhérents ont écrit la chanson. Ils ont lu la chanson au groupe et celui-ci a effectué quelques modifications pour une meilleure lecture en chant. Cette chanson a été ensuite enregistrée. Cela a été un vrai moment de plaisir et de partage. Irina, une des intervenantes, va également vous exprimer son ressenti.
En effet, pour Benjamin et moi, enregistrer un premier titre en 3 séances a été un vrai challenge. Mais les adhérents d'Oxygem sont dynamiques et motivés. Nous arrivons toujours dans la bonne humeur et les sourires. Donc en une semaine, le texte était fait et la deuxième semaine, les voix étaient là. C'est un réel partage autant musical qu'humain. Hâte de continuer et commencer les prochains titres avec eux.
Merci Irina pour ton accompagnement avec Benjamin. Maintenant, place à la chanson d'Oxygem, on se donne au max.
C'est bon.
The sun is down.